Les éditions de l'Avenir présentent Samuel Champlain, fondateur de Québec et père de la Nouvelle-France, Histoire de sa vie et de ses voyages par N. E. Dionne, lu par Christian Martin. Chapitre 4. Voyage en Acadie, 1604. Amitié de Champlain pour Gravé, sieur Dupont. Pierre Dugast, sieur de Mont, succède à Aymar de Chaste. Sa commission du 8 novembre 1603. L'Acadie. Beauté et richesse de ce pays. Délimitation de l'Acadie. Départ de Champlain, de Mont, Gravé et Pontrincourt pour l'Amérique. Le capitaine Rossignol. Exploration des côtes de la péninsule acadienne. Nom donné aux ports et aux îles du littoral. Champlain visite seul une partie de la côte. Retard de Gravé. De Mont et Champlain découvrent la baie française et le port royal. Mine. Voyage à la rivière Saint-Jean. L'île de Sainte-Croix. On décide d'y fonder un établissement. Construction qu'on y érige. Nous avons vu jusqu'à présent, dans les divers essais de colonisation, comme dans le commerce des pelleteries au Canada, figurer presque au premier rang le sieur Dupont. Chauvin avait été son associé, mais ils opinaient différemment sur le choix d'un poste fixe pour le commerce. Pontgravé aurait préféré se fortifier aux Trois-Rivières. Pour Chauvin, Tadoussac était le bout du monde. Satisfait du commerce qu'il y faisait, son ambition n'alla pas au-delà. De Mont et Champlain étaient revenus dégoûtés de ce petit coin de pays, fermé à tout espoir agricole, et où le climat laissait beaucoup à désirer. Mais tandis que De Mont semblait attiré par les douceurs d'un climat plus méridional, Champlain et Pontgravé s'en tenaient toujours au Saint-Laurent. Cette similitude de vue dut contribuer à faire des amis de ces deux hommes devenus presque inséparables depuis leur voyage de 1603. Champlain eut toujours une grande confiance dans Pontgravé qu'il respectait à l'égal d'un père.
C'est la féconde initiative de Pontgravé, écrit Moreau, qui a été plus tard l'occasion de la découverte et de la colonisation de l'Acadie. Car, jusqu'à la première expédition de De Mont, on connaissait à peine quelques points des côtes occidentales de la presqu'île. Il a, de plus, eu le mérite de donner l'exemple de ces associations de navigateurs et de marchands auxquelles le gouvernement lui-même a eu recours quand il a voulu imprimer une impulsion plus vive au mouvement des colonies américaines. Mais on doit lui reprocher d'avoir eu moins en vue les avantages futurs d'une fondation stable, d'un établissement solide, que les profits actuels de son industrie. C'était un armateur intelligent et actif. Ce n'était ni un politique, ni un administrateur.
Connaissant les idées de M. De Mont, nous ne devons pas être surpris de l'avoir tourné ce regard vers l'Acadie du moment que le roi l'a choisi pour remplacer le commandeur de Chaste. Du reste, il connaissait déjà le pays pour y avoir fait diverses navigations, voyages et fréquentations. Pierre Dugas, ou Dugast, sieur de Mont, était natif de la province de Saint-Onge, de même que Samuel Champlain. Le roi l'avait honoré de sa confiance en le nommant gentilhomme ordinaire de sa chambre et gouverneur de Pont. Pendant les guerres de la Ligue, il imita la conduite des autres gouverneurs de villes et de provinces et se prononça fortement pour Henri IV, proclamé roi de France. Les services qu'il rendit au roi en cette occasion furent d'un grand poids pour lui faire obtenir sa commission qui fut signée à Fontainebleau le 8 novembre 1603. L'édit royal le nommait
lieutenant général au pays de l'Acadie, du 40e au 46e, pour peupler, cultiver et faire habiter les dites terres les plus promptement, faire rechercher mines d'or, d'argent, etc., bâtir des forts et des villes, concéder des terres, etc., à condition d'y planter la foi catholique, apostolique et romaine, permettant de laisser vivre chacun dans sa religion.
Pierre Dugast appartenait à la religion protestante. On aurait pu faire un meilleur choix, car, malgré les bonnes dispositions dont le nouveau lieutenant général de l'Acadie était animé, il ne put empêcher que catholiques et protestants fussent mis sur un pied d'égalité dans tout ce qui se rapportait à cette entreprise. C'était déjà un grand danger pour le succès de l'œuvre. Aussi, verrons-nous les animosités entre catholiques et huguenots dégénérer en chicanes sérieuses, amenant peu à peu la ruine de la colonisation du côté de l'Acadie. Ce qui fera écrire à Champlain, à qui le vice de cette organisation n'avait pas échappé, « Voilà comme les entreprises qui se font à la hâte et sans fondement, et faites sans regard au fond de l'affaire, réussissent toujours mal. » L'Acadie allait désormais attirer à soi les regards de la France. C'était, dans l'opinion de M. Daumont, et cette opinion était assez généralement partagée, l'endroit le plus beau, le plus riche et le plus fertile de la Nouvelle-France.
« On estimait ses ports excellents, »
dit Moreau,
« son sol fécond, dans l'intérieur surtout, ses côtes abondantes en poissons de toutes sortes. N'avait-on pas pêché dans les mers qui la baignent la morue, le saumon, le maquereau, les perlans, le hareng, la sardine, le loup marin, la vache marine, le phoque et la baleine? On avait été frappé d'admiration à la vue de ces grands bois, et on ne doutait pas qu'on ait dû trouver, le long du littoral, des mines de cuivre, de fer, de charbon et de gypse. C'était d'ailleurs la contrée la plus fréquentée par les pêcheurs de Normandie, de Bretagne, de La Rochelle, et du Pays Basque qui, depuis près d'un siècle, n'avait pas cessé d'être comme les éclaireurs des grandes découvertes. »
Daumont était assez bien doué sous le rapport de la fortune, mais ne se sentant pas capable de soutenir, à lui tout seul, les frais d'un établissement aussi grandiose, il fit société avec des marchands de Rouen, de La Rochelle et autres lieux. Le roi voulut leur aider à sa manière, il leur accorda, en vertu de lettres patentes du 18 décembre de la même année, la diminution des droits d'entrée en France des marchandises qu'ils rapporteraient de l'Acadie et du Canada, et il leur octroya en outre, pour 10 ans, le privilège exclusif du commerce des pelleteries et autres marchandises,
depuis le cap de Raze jusqu'au 40e degré, comprenant toute la côte de l'Acadie, terre et cap Breton, baie de Saint-Clair, de Chaleur, île Percée, Gaspé, Chisdec, Messamichi, Lecoumin, Tadoussac et la rivière de Canada, tant d'un côté que d'autre, et toutes les baies et rivières qui entrent au-dedans des dites côtes.
Les écrivains ne s'accordent pas sur les délimitations de l'Acadie, quoique, généralement parlant, on puisse la rapporter à la Nouvelle-Écosse actuelle. Moreau croit que ce nom a été donné alternativement et simultanément quelquefois à la presqu'île qui sépare le golfe Saint-Laurent de la baie de Fundy, ou baie française, et au pays compris entre le fleuve Saint-Laurent, au nord, le golfe du même nom à l'ouest, l'océan Atlantique au midi, depuis le cap de Canso jusqu'à la rivière Penobscot, à l'est, enfin, une ligne droite partant de l'embouchure de cette rivière pour aboutir à Québec ou à Montréal. D'après le même, l'Acadie comprendrait les îles que baigne l'océan, de la baie verte à Pentagouet, Penobscot, et plus particulièrement les côtes de la presqu'île acadienne, la rive de la baie de Fundy, qui s'étend de son extrémité septentrionale la plus reculée dans la baie de Beaubassin, jusqu'à l'île de Menane, près de l'embouchure de la rivière Sainte-Croix, et la partie du littoral qui la continue à l'est jusqu'à la rivière de Penobscot. D'après Denis, le pays appartenant à la France du temps qu'il était gouverneur dans ces parages était divisé en 4 provinces. 1. Celle des sept chemins ou Malécites, commençant à la rivière Pentagouet et s'étendant jusqu'à la rivière Saint-Jean. C'était une partie de la côte de Norembègue. 2. Celle de la baie française. Elle se limitait aux côtes de la péninsule acadienne, depuis la baie de Fundy jusqu'au cap Fourchu, Yarmouth. Et était occupé par les Micmacs ou Souriquois. 3. Celle de l'Acadie proprement dite, depuis le cap de Sable jusqu'au détroit de Canso. 4. Celle du Saint-Laurent, entre Canso et Onguedo, ou le cap Forillon. Denis devint gouverneur de cette dernière province. L'Acadie, comme on voit, ne se limitait pas, même à l'époque qui nous occupe, à la seule presqu'île connue maintenant sous le nom de Nouvelle-Écosse. Elle comprenait, en outre,
cette partie de la terre ferme qui s'étend de la rivière Saint-Jean à la rivière Penobscot. Ces limites furent l'objet de longues disputes entre la France et l'Angleterre, et quoique fixées par le traité d'Utrecht, elles ne cessèrent pas d'être la cause de dissensions entre les deux nations rivales, entraînant à leur suite des guerres sanglantes et presque interminables. Avril venait de s'ouvrir. M. de Mont avait fait publier dans tous les ports et havres de France les défenses portées par le roi contre les trafiquants de fourrures. Quatre vaisseaux, ancrés au Havre de Grâce, n'attendaient plus qu'un signal pour cingler vers l'Amérique. 120 artisans s'étaient embarqués sur deux des navires, dont l'un, de 120 tonneaux, était commandé par Pontgravé, et l'autre, de 150 tonneaux, par M. de Mont, qui avait pris à son bord Jean de Biencourt, sieur de Poutrincourt, gentilhomme Picard et Samuel Champlain, plus quelques prêtres catholiques et des ministres protestants. Le capitaine Timothée, du Havre de Grâce, le commandait, et Pontgravé avait pris avec lui le capitaine Morel, de Honfleur, marin expérimenté et fervent catholique. Poutrincourt passait en Acadie avec l'intention d'y choisir des terres pour y passer le reste de ses jours avec sa femme et ses enfants. Poutrincourt avait pris part aux guerres de la Ligue dans les rangs des catholiques. L'escarbot raconte que
Henri IV, le tenant en personne assiégé dans le château de Beaumont, lui voulut donner le comté du dit lieu pour se rendre à son service. Ce qu'ayant refusé, il le fit depuis gratuitement, voyant Sa Majesté réduite à l'Église catholique romaine. Le roi lui rendit par sa bouche le témoignage qu'il était un des hommes de bien et des plus valeureux de son royaume.
Poutrincourt était chevalier de l'ordre du roi, gentilhomme de sa chambre, maître de camp de 6 compagnes d'hommes et capitaine de l'une d'elles. Il fut, sous la régence de Marie de Médicis, nommé gouverneur de Méry-sur-Seine. De plus en plus anxieux de continuer ses découvertes, Champlain avait accepté avec empressement l'invitation que lui fit M. de Mont de l'accompagner, à condition qu'il ferait un rapport de son voyage. Le départ des vaisseaux eut lieu du Havre des Grâces. M. de Mont prit le devant et laissa la rade le 7 avril, 3 jours avant Pontgravé. Rendez-vous avait été fixé à Canseau, mais une fois en mer, M. de Mont changea son itinéraire et fila en droite ligne dans un petit port situé entre la Hève et le Cap de Sable. Un capitaine normand, du nom de Pierre Friteau, dit le Rossignol, du Havre de Grâce, y faisait la traite avec les sauvages de la côte acadienne. De Mont, fort de son autorité et de sa commission, confisqua ce vaisseau et donna au port le nom de son commandant. C'est aujourd'hui la petite ville de Liverpool. M. de Mont continua sa course vers le sud et vint mouiller dans un autre havre qu'il appela le port aux moutons. L'occasion de Mouton, qui s'étant noyé, revint à bord et fut mangé de bonne guerre. L'on résolut d'y attendre Pontgravé et d'envoyer Champlain explorer le littoral. L'équipage descendit à terre et l'on se cabana sur une pointe à l'entrée du port, pendant qu'une chaloupe allait à la recherche de Pontgravé, dont l'absence trop longue pouvait exposer les hommes de M. de Mont à une disette pénible. Ils auraient souffert en réalité si on eût trouvé dans le voisinage une ample moisson de lièvres. Champlain partit du port au Mouton le 19 mai avec Rallo, secrétaire de M. de Mont, et 10 hommes pour conduire la barque qui les portait. Pendant cette expédition qui dura un mois, Champlain explora toute la côte jusqu'au port Sainte-Marguerite par les 44 degrés et demi. Champlain nomma le cap Négré à cause de la ressemblance frappante de ce promontoire avec une tête de nègre. À 4 lieues plus loin, il remarqua un cap fort dangereux, à raison, dit-il, des rochers qui jettent presque 1 lieue à la mer. C'est le cap de Sable, à 2 lieues de la baie du même nom. Les explorateurs débarquèrent à l'île aux Cormorans, où ils firent une provision d'eux de ces oiseaux marins. Les îles de Tousquet et aux Tangues s'offrirent ensuite à leur vue. Ils y trouvèrent une telle quantité de Tangues qu'il leur était facile de les tuer à coups de bâton. Le rivage d'une autre île était tout couvert de loups marins. Ils en prirent tant qu'ils voulurent. Champlain nomma ensuite les îles aux loups marins, aborda au cap Fourchu,
Puis, après avoir contourné la pointe méridionale de l'Acadie, il vint atterrir à l'île Longue, où se trouve le passage pour entrer dans la baie française. De ce passage, en suivant la direction nord-est sur un parcours de 2 lieues, il y a une anse où l'on peut ancrer en sûreté. En ce lieu, il y a, dit Champlain, une mine d'argent très bonne, selon le rapport d'un mineur nommé Maître Simon. Un peu plus au nord, Champlain trouva une mine de fer qui, au témoignage du même, devait rapporter 50%. Mais, dit l'escarbot,
il y a une mine de fer, mais elle n'est point abondante, selon les preuves qu'on en a fait par-delà et en France.
Enfin, Champlain reconnut la baie Sainte-Marie, qu'il appelle Sainte-Marguerite. Au fond de cette baie, dit-il, il y a un chenal qui assèche de basse mer, autour duquel il y a nombre de prés et bonne terre pour cultiver. Champlain donna l'ordre de rebrousser chemin, et l'on atteignit le port aux moutons vers la mi-juin, au grand contentement de M. Demont, qui commençait à croire que la barque avait été engloutie par les flots avec son équipage. Champlain lui raconta son voyage et lui assura que le meilleur endroit pour les vaisseaux était par le 44e degré de latitude, c'est-à-dire dans la baie Sainte-Marie. Mais Pontgravé n'était pas encore de retour. 3 semaines s'étant écoulées depuis que l'on s'était fixé temporairement au port aux moutons, M. Demont dépêcha un Français avec quelques sauvages pour tâcher de le découvrir le long de la côte, en gagnant Cansault. Ils aperçurent en effet son vaisseau dans la baie des îles. Pontgravé prit connaissance de la lettre de M. Demont et, au lieu d'aller le rejoindre, il préféra décharger les vivres et munitions destinées aux hivernants et s'en retourner ensuite à Tadoussac pour y faire la traite. Le lieutenant-général se trouvait maintenant en possession de 2 navires, le sien et celui du capitaine Rossignol. Tous deux continuèrent leur course dans la direction du cap de sable pour ne s'arrêter que dans la baie Sainte-Marie. Aucun incident remarquable pendant ce court trajet. Mais 2 ou 3 jours après leur arrivée, un des prêtres missionnaires, Nicolas Aubry, s'égara dans la forêt pendant qu'il cherchait son épée qu'il y avait oubliée. Il fut ainsi perdu pendant 16 ou 17 jours, sans pouvoir se bien orienter. M. Demont envoya des Français et des sauvages à sa recherche, qui ne purent le retrouver. On le croyait mort quand, un jour, au grand contentement de tout le monde, on le vit revenir en chaloupe. Ce pauvre prêtre avait vécu d'oseilles et de fruits sauvages, errant à travers les bois, jusqu'à ce qu'enfin il aperçut la mer, près de l'île Longue, à l'entrée de la baie française. Les privations et les fatigues l'avaient beaucoup épuisé, et il était résigné à mourir sur un rocher perdu où, depuis plusieurs jours, il guettait une chaloupe ou un vaisseau, lorsqu'enfin Dieu permit qu'une des chaloupes de M. Demont passât de ce côté. L'abbé Aubry le fit signe avec son chapeau, accroché au bout d'une gaule, et les pêcheurs vinrent à son secours. Dans cet intervalle, M. Demont était allé avec Champlain à la découverte le long des côtes de la baie française. Le but principal de cette expédition était de trouver un endroit plus propice à un établissement que la baie Sainte-Marie. Leurs recherches ne furent pas vaines car, à peine avaient-ils fait quelques lieues vers le nord-est, ils aperçurent l'entrée d'un des plus beaux ports du monde et pour la grandeur de son enceinte et pour la profondeur de ses eaux. Champlain l'appelle Port-Royal. L'ouverture de cette baie n'a que 800 pas de largeur, mais à mesure qu'on y avance, elle s'agrandit sensiblement jusqu'à ce qu'elle acquiert une lieue. Sa longueur est double de sa plus grande largeur. 3 rivières viennent s'y déverser. Une, venant de l'est, appelée rivière à l'équille, du nom d'un petit poisson très abondant en cet endroit, a presque un quart de lieue à son embouchure, où se trouve une île charmante d'une demi-lieue de circonférence. Cette île, que l'escarbot indique sous le nom de Biencourville, et qui prit plus tard le nom d'île aux chèvres, était toute couverte de bois, comme pins, sapins, bruches, bouleaux, trembles et chênes. Il y a une autre île, distante de l'autre de près de 2 lieues, à proximité de laquelle serpente une autre rivière, appelée Saint-Antoine par Champlain. Elle porta bientôt le nom d'Hébert, qui fut l'un des premiers habitants de Port-Royal. L'île reçut aussi le même nom. La 3e rivière n'est qu'un ruisseau rempli de roches. On l'appela le ruisseau de la Roche. M. Demont et Champlain quittèrent la baie de Port-Royal, charmés de sa beauté et des avantages que l'offrait un établissement et s'enfoncèrent plus avant dans la baie française dans l'espérance de trouver la fameuse mine de cuivre dont Prévert avait rapporté monts et merveilles. Après avoir doublé le cap des deux baies, ou Chignectou, ils aperçurent l'île Haute. Ils y trouvèrent une mine de cuivre. De là, ils entrèrent dans un port où ils comptaient rencontrer ce qu'ils cherchaient. De Le Havre à l'Avocat, que Champlain appelle le port aux mines. Ils firent une excursion d'un quart de lieue le long des montagnes, mais inutilement. Celle dont Prévert avait parlé à Champlain, d'après le dire des sauvages, n'existait pas dans cette localité. Cependant, écrit Champlain, nous trouvâmes en ce port deux mines de cuivre, non en nature, mais en apparence, selon le rapport du mineur qui les jugea être très bonnes. L'escarbot a cru l'existence
d'un haut rocher entre deux baies de mer, où le cuivre est enchâssé dans la pierre, fort beau et fort pur, tel que celui qu'on dit cuivre de Rosette. Mais,
ajoute-t-il,
de s'amuser à le rechercher, ce n'est chose encore de saison. La première mine, c'est d'avoir du pain et du vin et du bestial.
Le même l'escarbot dit que parmi les roches de cuivre, l'on trouvait quelquefois des roches incrustées de diamants. Il s'y trouvait aussi certaines pierres bleues transparentes, valant tout autant que les turquoises. Chandoré, l'un des charpentiers de M. Demont, avait taillé dans le roc une de ces pierres qu'il avait emportées en France. Là, il la divisa en deux fragments qu'il fit monter par un homme de l'art. M. Demont et Poutrincourt, à qui il en avait fait cadeau, les avaient trouvées si belles qu'ils les jugèrent dignes d'être présentées au roi et à la reine. Un orfèvre offrit à Poutrincourt 15 écus pour celle qu'il destinait à sa majesté. Le 20 juin, la petite troupe dirigée par M. Demont quitta le port des mines, bien résolu de ne s'arrêter qu'après avoir trouvé un lieu pour s'y fixer définitivement. Quant à la montagne de cuivre, on la chercherait plus tard, à la première occasion favorable. Cependant, nos Français ne désespéraient pas encore. Prévert avait annoncé à Champlain que la montagne, si brillante au soleil, était éloignée de 5 ou 6 lieues de la baie des mines et que 2 petites rivières, l'une venant dans la direction du Cap Breton et l'autre du côté de Gaspé, se jetaient dans une autre baie qui, d'après le contexte, devait être la baie de Chignectou ou Beau Bassin. Les barques côtoyèrent le littoral de cette baie sans ne rien apercevoir que des montagnes ordinaires, une entre autres ayant la forme d'un chapeau de cardinal. Puis, elles gagnèrent le sud-ouest, dans la direction de la côte de la terre ferme, et vinrent s'arrêter à l'embouchure d'une rivière, qui fut nommée Saint-Jean, à cause de la fête de Saint-Jean-Baptiste. Les sauvages l'appelaient Ouigoudi. Elle est étroite en son entrée, dit Champlain, puis vient à s'élargir. Et, ayant doublé une pointe, elle rétrécit de rechef, et fait comme un saut entre 2 grands rochers, où l'eau y court d'une si grande vitesse, et jetant du bois, il enfonce en bas, et on ne le voit plus. Mais, attendant la pleine mer, l'on peut passer fort aisément ce détroit, et lors, elle s'élargit comme d'une lieue par aucun endroit où il y a 3 îles. Champlain ne fit qu'en explorer l'estuaire, mais Ralo apprit de Choudon, chef d'une tribu indienne campée le long de ses rives, et les sauvages se rendaient à Tadoussac en suivant son cours, n'ayant à franchir à pied qu'un petit espace de terrain. Remontant en effet la rivière Saint-Jean jusqu'au Petit Sault, les sauvages pouvaient engager ensuite leurs embarcations dans la rivière Madawaska et les conduisaient au lac Témiscouata. Ils n'avaient plus à faire par terre que quelques lieues pour arriver au fleuve Saint-Laurent, presque en face de Tadoussac, sur la rive opposée. Comme il n'y avait pas de temps à perdre, si l'on voulait bâtir une demeure et se mettre en état de résister pendant l'hiver aux éléments et aux sauvages, M. Demont, toujours guidé par l'idée de choisir un endroit tempéré, n'avait encore pu fixer son choix. Ni la baie Sainte-Marie, ni Port-Royal, ni la rivière Saint-Jean n'avaient attiré son attention. L'on descendit encore plus au sud. La terre qu'ils aperçurent était bordée d'îles, grandes et petites. M. de Poutrincourt faillit se perdre en visitant l'une d'elles, l'île aux Margaux, ainsi appelée par le grand nombre de ces oiseaux qu'on y aperçut. Champlain mentionne encore l'île Manane. Enfin, les barques se trouvèrent au milieu d'un groupe d'îles assez agréables, enfermées dans une espèce de cul-de-sac où vient déboucher une rivière de près d'une demi-lieue de large à son embouchure. C'est la rivière des Etchemins, mieux connu par la suite sous le nom de Sainte-Croix. À travers des îles nombreuses, dont Champlain n'a jamais pu savoir le nombre, il y avait un îlot assez près de terre, du côté de l'ouest de la rivière, pouvant mesurer 800 ou 900 pas de circuit, au bord assez escarpé, à l'exception d'un seul endroit très bas, se terminant en une pointe de sable mêlée d'argile. Cet îlot était couvert de sapins, bouleaux, érables et chênes. La côte se trouvant éloignée d'environ 1000 pas, il était facile de s'y fortifier. M. Demont, jugeant que la situation était bonne et que ce pays offrait plusieurs avantages, résolut de s'y arrêter définitivement. Quant aux sauvages, que l'on espérait amener au christianisme, tout en travaillant à rétablir la paix souvent rompue entre eux, il serait facile de se mettre en communication, au moins avec ceux du voisinage. M. Demont donna à l'île le nom de Sainte-Croix parce que, au témoignage de l'escarbot, il y avait, deux lieues plus loin, des ruisseaux qui venaient se décharger dans la rivière en formant une croix. Le poste était fixé. Il importait de s'y mettre confortablement et en lieu de résister à toute attaque extérieure. M. Demont commença par élever une barricade sur un îlet ou gros rocher à mi-chemin entre la terre ferme et l'île de Sainte-Croix, et il plaça un canon pour en protéger les abords. Cet ouvrage terminé, il fut résolu d'envoyer chercher les Français restés dans la baie Sainte-Marie en attendant qu'on les avertît d'aller ailleurs. Leur arrivée ne tarda pas longtemps et tout le monde se mit aussitôt à l'œuvre, les uns travaillant au défrichement, d'autres charroyant le sable pour les fondations des édifices projetés et préparant le bois de charpente. Champlain et Champdoré érigèrent à la hâte, avec quelques serviteurs, une maisonnette qui servirait de résidence temporaire à M. Demont. Celui-ci avait fixé les dimensions des nouveaux édifices. Le magasin devait avoir 9 toises de long, 3 de large et 12 pieds de hauteur. Les manœuvres se mirent aussi en frais de construire un four pour cuire le pain et un moulin à bras pour faire les moutures. Il y avait là tout un essaim d'ouvriers et d'artisans, des menuisiers, des charpentiers, des serruriers, des maçons habiles dans leur spécialité et, si l'on en juge par les récits de Champlain, ils étaient tous gens moraux et paisibles. Évidemment, M. Demont avait eu le choix heureux dans le recrutement de sa petite colonie. On ne pourrait peut-être pas en dire autant de la préférence qu'il donna à cet îlot, resserré dans ses limites, inaccessible en réalité aux sauvages, mais impropre à toute fin colonisatrice. Le lieutenant-général de l'Acadie avait cette idée fixe qu'il fallait pour réussir, chercher avant tout un climat plus humain que celui de Tadoussac. Elle l'avait conduit jusqu'au 45e degré 20 minutes. Devait-il y trouver ce qu'il ambitionnait tant? C'est ce que nous verrons bientôt. Les éditions de l'Avenir vous ont présenté le chapitre 4 de Samuel Champlain, fondateur de Québec et père de la Nouvelle-France, Histoire de sa vie et de ses voyages par N.E. Dionne. Cette version audio est diffusée sous contrat Creative Commons Attribution Non-Commercial Non-Derivatives et est une production 2011 des éditions de l'Avenir. Pour tout connaître de nos productions, visitez l'avenir audio.canablog.com. Merci de votre attention. À bientôt.